Acte deuxième. Salle d'honneur dans le palais du roi. Scène première. Le chambellan, le surintendant des théâtres, le montreur de phoques, le roi des ondins, en illusionniste, le poète, puis un page. Le chambellan. Messieurs, j'en appelle également à votre invention et à votre impromptu. Dans quelques instants, le roi reçoit en cette salle le chevalier de Wittenstein, qui s'est enfin décidé, après 3 mois de lune de miel, à présenter sa jeune épouse à la cour. Sa hautesse entend qu'un divertissement clôture la solennité. Vous, monsieur le surintendant des théâtres royaux, que nous proposez-vous? Le surintendant. Salambo. Le chambellan. C'est triste, Salambo, et vous nous l'avez déjà donné dimanche pour le bout de l'an de la Margrave. Le surintendant. C'est triste, mais c'est prêt. Le chambellan. Plus prêt qu'Orphée, pour lequel la ménagerie du roi fournit les loups et les blaireaux? Plus prêt que le jeu d'Ève et d'Adam, qui ne demande point de costume? Le surintendant. Excellence, ma fortune théâtrale vient de ce que j'ai le premier compris que toute scène a ses facilités et ses inhibitions qu'il est vain de vouloir forcer. Le chambellan. Surintendant, le temps presse. Le surintendant. En fait, chaque théâtre n'est bâti que pour une seule pièce, et le seul secret de sa direction est de découvrir laquelle. La tâche est ardue, surtout quand elle n'est pas encore écrite. De là, 1000 catastrophes, jusqu'au jour où, sous les cheveux de Mélisande ou l'armure d'Hector, s'introduit en lui sa clé, son âme, et si j'ose dire, son sexe. Le chambellan. Surintendant. J'ai régi un théâtre vide avec les classiques qui n'a connu l'euphorie qu'avec une farce de Houzard. C'était un théâtre femelle. Un autre qu'avec les chœurs de la Sixtine. C'était un théâtre inverti. Et si j'ai dû fermer l'an dernier le théâtre du Parc, c'est par raison d'état et haute convenance, parce qu'il ne peut supporter que la pièce incestueuse. Le chambellan. Et la clé de notre scène royale est Salambo. Le surintendant. Vous l'avez dit. Au seul nom de Salambo, cette astringence, hélas constitutive des pharynx de nos choristes, se relâche et nous donne des voix un peu discordes, mais éclatantes. Les treuils que Faust rouille et noue tournent soudain à leur vitesse. Les colonnes que 10 équipes ne pouvaient soulever qu'en accrochant rideaux et corniches se dressent, plus distinctes que l'on jonchait au doigt d'un seul machiniste. La tristesse, l'insubordination, la poussière, fuient ces lieux à tire-d'aile avec les fameuses colombes. Parfois, alors que je donne un opéra allemand, de ma loge je vois un de mes chanteurs pétillant de joie, lançant ses notes à pleine gorge, dominant l'orchestre de sa pétulance et provoquant dans le public l'aplomb et l'aise. C'est au milieu de ses collègues qui chantent avec conscience leur partition nordique que celui-là, par distraction, chante son rôle de Salambo. Oui, Excellence, mon théâtre a joué Salambo 1000 fois, mais c'est pourtant la seule pièce que je puisse exiger de lui qu'il improvise. Le chambellan. Je regrette. Il serait malséant de montrer à 2 amoureux la piteuse issue de l'amour. À toi, qui es-tu? Le montreur. Je suis le montreur de phoques, Excellence. Le chambellan. Qu'est-ce qu'ils font, tes phoques? Le montreur. Elles ne chantent pas Salambo, Excellence. Le chambellan. Ils ont tort. Des phoques chantant Salambo constitueraient un très convenable intermède. Et d'ailleurs, l'on m'a dit que ton phoque mâle porte une barbe qui le fait ressembler au beau-père de notre roi. Le montreur. Je peux la raser, Excellence. Le chambellan. Par une coïncidence regrettable, le beau-père de notre roi s'est fait raser la sienne hier. Évitons l'ombre d'un scandale. À toi, le dernier. Qui es-tu? L'illusionniste. Je suis illusionniste, Excellence. Le chambellan. Où est ton matériel? L'illusionniste. Je suis illusionniste, sans matériel. Le chambellan. Ne plaisante point, on ne fait point passer de comètes avec leur queue, on ne fait point monter des eaux la ville 10, surtout toute cloche sonnant, sans matériel. L'illusionniste. Si. Une comète passe, la ville 10 émerge. Le chambellan. Il n'y a pas de si. On ne fait point entrer le cheval de Troie, surtout avec un œil fumant. On ne dresse point les pyramides, surtout entourées de chameaux, sans matériel. Le cheval de Troie entre. Les pyramides se dressent. L'illusionniste. Si. Le chambellan. Quel entêté! Le poète. Excellence. Le chambellan. Laissez-moi. On ne fait point jaillir l'arbre de Judée, on ne fait point surgir près du premier chambellan Vénus toute nue, sans matériel. Vénus toute nue surgit près du chambellan. L'illusionniste. Si. Le poète. Excellence. Il s'incline. Madame. Vénus a disparu. Le chambellan éberlué. Je me suis toujours demandé quelles sont ces femmes que vous faites ainsi paraître, vous autres magiciens. Des commères ? L'illusionniste. Ou Vénus elle-même, cela dépend de la qualité de l'illusionniste. Le chambellan. La tienne en tout cas me paraît certaine. Quel est ton projet ? L'illusionniste. Si votre excellence le permet, les circonstances m'inspireront. Le chambellan. C'est te faire grande confiance. L'illusionniste. Je suis tout à votre disposition pour vous offrir immédiatement, à titre d'essai, un petit divertissement personnel. Le chambellan. Je vois que tu sais lire aussi les pensées. L'illusionniste. Comme la pensée qui vous agite est celle de toute la cour, je n'y ai que peu de mérite. Oui, excellence, je peux, comme vous le souhaitez, comme toutes les dames de la ville le souhaitent, faire se trouver face à face un homme et une femme qui, depuis 3 mois, s'évitent. Le chambellan. Ici même ? L'illusionniste. À l'instant même, le temps pour vous de placer les curieux. Le chambellan. Tu te fais des illusions. Il est vrai que c'est ton métier. Mais réfléchis que l'homme en question apporte présentement le dernier soin à la toilette de cour de son épouse et la contemple avec ravissement. La femme, de son côté, a juré par ressentiment et jalousie de ne pas paraître à la cour. L'illusionniste. Oui. Mais supposez que quelque chien vole le gant de la jeune épouse et l'apporte vers cette salle. Que fera l'époux ? Supposez que l'oiseau de la femme s'évade de sa cage et vole vers ce lieu, l'oiseau qu'elle aime. Le chambellan. Cela ne t'avancerait guère. Le hallebardier a pour haute consigne d'écarter les chiens des appartements royaux. Les 2 faucons du prince sont en liberté et sans capuchon dans le voisinage de la cage. L'illusionniste. Oui. Mais supposez que le hallebardier glisse sur des bananes, qu'une gazelle distrait les faucons d'un bouvreuil. Le chambellan. Bananes et gazelles sont inconnues en ce pays. L'illusionniste. Oui. Non, pas depuis 1 heure. L'envoyé africain pelait un de ses fruits en vous suivant pour son audience, et parmi ses cadeaux j'ai vu les animaux du désert. Vous n'aurez pas le dernier mot avec la magie, excellence, croyez-moi. Donnez votre signal, installez-vous curieuse, et vous verrez arriver en ces lieux Bertha et le chevalier. Le chambellan. Prévenez ces dames. Le poète. Excellence, pourquoi faire cette mauvaise besogne ? Le chambellan. Elle se fera un jour ou l'autre. Vous connaissez les langues de la cour. Le poète. C'est leur métier, ce n'est pas le nôtre. Le chambellan. Mon cher poète, quand vous aurez mon âge, vous trouverez la vie un théâtre par trop languissant. Elle manque de régie à un point incroyable. Je l'ai toujours vue retarder les scènes à faire, amortir les dénouements. Ceux qui doivent y mourir d'amour quand ils y arrivent, c'est péniblement et dans leur vieillesse. Puisque j'ai un magicien sous la main, je vais enfin m'offrir le luxe de faire se dérouler la vie à la vitesse et à la mesure, non seulement de la curiosité, mais de la passion humaine. Le poète. Prenez une moins innocente victime. Le chambellan. Cette innocente victime, jeune ami, a détourné un chevalier de ses serments. Son châtiment doit venir tôt ou tard. Si le chevalier et Bertha se rencontrent et s'expliquent aujourd'hui, nous épargnant le semestre qu'exigerait la vie. S'ils se touchent la main dans la matinée, s'ils s'embrassent dans la soirée, au lieu de remettre leurs baisers à l'hiver ou à l'automne, la trame de leur intrigue n'en sera pas changée, mais elle en sera plus vraie, plus forte et aussi plus fraîche. C'est le grand avantage du théâtre sur la vie. Il ne sent pas le rance. Allez-y, magicien. Quel est ce bruit ? Un page. C'est le hallebardier qui tombe. Le chambellan. Tout prend bonne tournure. Le poète. Excellence, c'est une mauvaise action d'accélérer la vie. Vous en supprimez les 2 éléments sauveurs, la distraction et la paresse. Qui vous dit que le chevalier et Bertha, par négligence ou par routine, ne se seraient pas évités toute leur vie ? Quel est ce cri ? Le page. C'est la gazelle que les faucons éborgnent. Le chambellan. Parfait. Cachons-nous. Et vous croyez pouvoir maintenir toute la journée à cette allure, magicien ? L'illusionniste. Voici l'oiseau. Scène 2. Bertha, le chevalier. Le chevalier ramassant un gant. Enfin, je te trouve. Bertha attrapant l'oiseau. Enfin, je te tiens. Ils repartent chacun de son côté sans s'être vus. Scène 3. Le chambellan, l'illusionniste, le poète, les dames, les spectateurs cachés passent la tête et s'agitent. Le poète. Ah, je respire. Les dames. Vous vous moquez de nous, chambellan? Le chambellan. Quelle est cette plaisanterie, magicien? L'illusionniste. Une erreur de régie, comme vous dites. Je répare. Le chambellan. Vont-ils se rencontrer, oui ou non? L'illusionniste. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur leur rencontre, je vais les faire se heurter. Tous rentrent derrière les colonnes. Scène 4. Bertha, le chevalier. Le chevalier ramassant le second gant. Et voilà la paire. Bertha, rattrapant l'oiseau. Ah, tu t'échappes encore! Il se cogne brutalement. Bertha va tomber. Hans lui prend les mains. Ils se reconnaissent. Le chevalier. Oh, pardon, Bertha. Bertha. Pardon, chevalier. Le chevalier. Je vous ai fait très mal? Bertha. Je n'ai absolument rien senti. Le chevalier. Je suis une brute. Bertha. Oui. Ils vont sortir lentement chacun d'un côté. Bertha enfin s'arrête. Bertha. Beau voyage de noces? Le chevalier. Merveilleux voyage. Bertha. Une blonde, n'est-ce pas? Le chevalier. Une blonde. Le soleil passe où elle passe. Bertha. Nuits ensoleillées. Moi, j'aime l'ombre. Le chevalier. Chacun son goût. Bertha. Alors vous avez dû souffrir le jour de votre départ, à l'ombre de ce chêne, de m'embrasser. Le chevalier. Bertha. Bertha. Moi, je ne souffrais pas. J'aimais bien. Le chevalier. Ma femme est près d'ici, Bertha. Bertha. J'étais bien dans vos bras. J'étais bien pour toujours. Le chevalier. C'est vous qui déliâtes ces bras, qui m'avez ramené sans perdre une minute au milieu de vos amis par vanité pour y faire je ne sais quelle roue. Bertha. On retire son anneau même de fiançailles pour le montrer. Le chevalier. Je regrette, l'anneau n'a pas compris. Bertha. Il a fait ce que font les anneaux. Il a roulé sous un lit. Le chevalier. Quel est ce langage? Bertha. Je me trompe sans doute en parlant de lit. On couche dans la grange chez les paysans, sur le foin. Vous avez eu à vous brosser au matin de vos nuits d'amour? Le chevalier. Je vois à vos paroles que vous n'avez pas encore eu les vôtres. Bertha, ne soyez pas en peine, elles viendront. Le chevalier. Je n'en doute pas. Mais si vous voulez un conseil, préférez votre amour à vous-même. Ne le laissez plus s'écarter. À distance, quoi que vous puissiez croire, vos traits s'effacent. Bertha. Soyez tranquille. Je ne le lâcherai plus. Le chevalier. Quel qu'il soit, ne le lancez plus égoïstement loin de vous, vers les dangers stériles et la mort. Bertha. Il faut croire que vous avez eu très peur dans cette forêt. Le chevalier. On vous dit hautaine. N'hésitez pas à vous précipiter sur lui quand vous le verrez, et devant toute la cour à l'embrasser. Bertha. C'était mon intention, et même si nous étions seuls. Elle embrasse le chevalier et veut fuir. Il la retient. Le chevalier. Oh, Bertha, vous, la dignité, vous, l'orgueil. Bertha. Moi, l'humilité, moi, l'impudence. Le chevalier. Quel jeu jouez-vous maintenant? Que voulez-vous? Bertha. Ne serrez pas ma main, elle tient un oiseau. Le chevalier. J'aime ma femme, et rien ne me séparera d'elle. Bertha. C'est un bouvreuil, vous allez l'étouffer. Le chevalier. Si la forêt m'avait englouti, vous n'auriez pas pour moi un souvenir. Je reviens heureux et mon bonheur vous est insupportable. Lâchez cet oiseau. Bertha. Non, son cœur bat. À côté du mien, j'ai besoin en cette minute de ce petit cœur. Le chevalier. Quel est votre secret? Avouez-le. Bertha, lui montrant l'oiseau mort. Voilà, vous l'avez tué. Le chevalier. Pardon, Bertha. Il a mis un genou en terre. Bertha le regarde un moment. Mon secret, Hans? Mon secret est ma faute. Je pensais que vous l'aviez compris. C'est que j'ai cru à la gloire, pas à la mienne, à celle de l'homme que j'aimais, que j'avais choisi depuis l'enfance, que j'ai attiré un soir sous le chêne où, petite fille, j'avais gravé son nom. Le nom aussi grandissait chaque année. J'ai cru qu'une femme n'était pas le guide qui vous mène au repas, au repos, au sommeil, mais le page qui rabat sur le vrai chasseur tout ce que le monde contient d'indomptable et d'insaisissable. Je me sentais de force à rabattre sur vous la licorne, le dragon et jusqu'à la mort. Je suis brune. J'ai cru que dans cette forêt mon fiancé serait dans ma lumière, que dans chaque ombre il verrait ma forme, dans chaque obscurité mon geste. Je voulais le rouler au cœur de cet honneur et de cette gloire des ténèbres dont je n'étais que la peau et le plus modeste symbole. Je n'avais pas peur. Je savais qu'il serait vainqueur de la nuit, puisqu'il m'avait vaincu moi-même. Je voulais qu'il fût le chevalier noir. Pouvais-je penser qu'un soir tous les sapins du monde allaient écarter leurs branches devant une tête blonde? Le chevalier. Pouvais-je le penser moi-même? Bertha. Voilà ma faute. Elle est avouée, il n'en sera plus question. Je ne graverai plus de nom que sur les chaînes liège. Un homme seul, avec la gloire, c'est déjà bête. Une femme seule avec la gloire, c'est ridicule. Tant pis pour moi. Adieu. Le chevalier. Pardon, Bertha. Bertha lui prenant le bouvreuil des mains. Donnez, je l'emporte. Ils sortent, chacun de son côté. Scène 5. Le chambellan, l'illusionniste, le poète. Les dames. Illusionniste. Voilà. Voilà la scène que vous n'auriez eue que l'hiver prochain, si vous n'aviez eu recours à mes services. Le poète. Elle est très suffisante. Arrêtons-nous. Le chambellan. Certes pas. J'ai hâte de voir la suivante. Toutes les dames. La suivante. La suivante. L'illusionniste. À vos ordres. Laquelle? Une dame. Celle où Hans, se penchant sur le chevalier qui l'a blessé, voit sa gorge et reconnaît Bertha. L'illusionniste. Celle-là est réservée pour d'autres siècles, madame. Le chambellan. Celle où Bertha et le chevalier parlent pour la première fois d'Ondine. L'illusionniste. La scène de l'an prochain? Allons-y. Toutes les dames regardent soudain le visage du chambellan. Le chambellan. Qu'est-ce que j'ai là sur les joues? L'illusionniste. Ah! Ce sont les inconvénients du système. Vous avez une barbe de 6 mois. Ils se cachent à nouveau. Scène 6. Bertha, le chevalier. Ils entrent d'un pas dégagé, l'un du jardin, l'autre de la cour. Bertha. Je vous cherchais, Hans. Le chevalier. Je vous cherchais, Bertha. Bertha. Hans, il ne faut pas qu'un nuage subsiste entre nous. Je ne puis être votre ami si je ne suis l'ami d'Ondine. Confiez-la moi ce soir. Je copie, les illustrant moi-même, l'Énéide et les Tristes. Elle m'aidera à mettre l'or sur les larmes d'Ovide. Le chevalier. Merci, Bertha, mais j'en doute. Bertha. Ondine n'écrit pas volontiers? Le chevalier. Non, Ondine ne sait pas écrire. Bertha. Comme elle a raison. Elle peut ainsi se donner sans retenue aux œuvres des autres. Elle peut lire les romans sans envier l'auteur. Le chevalier. Non. Elle ne les lit pas. Bertha. Elle n'aime pas les romans? Le chevalier. Non, elle ne sait pas lire. Bertha. Que je l'envie. Quelle nymphe nous allons avoir au milieu de ces pédantes ou de ces dévotes. Qu'il va être reposant de voir enfin la nature même se donner insouciante à la musique et aux danseurs. Le chevalier. Vous ne l'y verrez pas. Bertha. Vous êtes à ce point jaloux d'elle? Le chevalier. Non, elle ne sait pas danser. Bertha. Vous plaisantez, Hans. Vous avez épousé une femme qui ne lit pas, qui n'écrit pas, qui ne danse pas? Le chevalier. Oui. Et qui ne récite pas, et qui ne joue pas de la flûte à bec, et qui ne monte pas à cheval, et qui pleure à la chasse. Bertha. Que fait-elle? Le chevalier. Elle nage, un peu. Bertha. Quel ange! Mais prenez garde, il n'est pas très bon d'être ignorante à la cour. Les professeurs y pullulent. Comment se présente-t-elle, Ondine? Le chevalier. Comme ce qu'elle est, comme l'amour. Bertha. Comme l'amour muet ou comme l'amour bavard? Elle aura le droit de tout ignorer si elle sait se taire. Le chevalier. C'est sur ce point, Bertha, que je ne suis pas sans inquiétude. Ondine est bavarde, et comme son seul maître de cour a été la nature, elle tient sa syntaxe des rainettes et ses liaisons du vent. Voici l'époque des tournois et des chasses. Je tremble à l'idée des paroles qu'arracheront à Ondine ces spectacles où chaque passe, chaque figure de manège, chaque volte a son nom. Je l'instruis, mais sans succès. À chaque terme technique, à chaque mot nouveau pour elle, elle m'embrasse. Il y en avait 33 rien que dans la première prise de lance que j'essayais hier de lui enseigner. Bertha. 34. Le chevalier. C'est ma foi vraie. avec le dégagé du col, 34. Où avais-je la tête? Bravo, Bertha. Bertha, vous vous êtes trompée d'un baiser. Confiez-moi Ondine, Hans. Avec moi, ce danger ne sera pas à craindre, et je sais la joute et la vénerie. Le chevalier, ce qu'elle doit connaître surtout, Bertha, ce sont les particularités et les privilèges des Wittgenstein, et ce sont des secrets. Bertha, ils ont presque été les miens. Interrogez. Le chevalier, si vous répondez, je vous dois un gage. Quelle couleur doit porter l'écu du Wittgenstein à l'entrée dans l'arène? Bertha, l'azur du prince, écartelé de l'écureuil à queue cassée. Le chevalier, chère Bertha, la tenue du Wittgenstein dépassant la barrière? Bertha, la lance en équerre, le destrier à l'amble. Le chevalier, quelle femme de chevalier vous ferez un jour, Bertha? Ils sortent ensemble. Scène 7. Le chambellan, l'illusionniste, le poète, les dames, puis un page. Le chambellan. Bravo! Et comme Wittgenstein a raison, la comtesse Bertha fait tout, sait tout. Elle est la femme idéale, elle se ruine en reliure. À la troisième scène, magicien, nous sommes dans les transes. La dame. Celle où Bertha voit Ondine nue, dansant au clair de lune avec ses gnomes. L'illusionniste. Vous confondez encore, madame. Le chambellan. La brouille de Bertha et d'Ondine? Le poète. Que diriez-vous d'une année de répit? Un page. Excellence, l'heure de la réception approche. Le chambellan. Hélas, c'est ma foi vrai. J'ai juste le loisir d'aller chercher cette jeune personne et de lui donner, puisqu'elle est si bavarde, les conseils qui éviteront, du moins aujourd'hui, tout impair. Mais vous n'allez pas, magicien, profiter de mon absence pour donner la moindre scène. L'illusionniste. Une toute petite. Le chambellan. Qui n'a aucun rapport avec cette intrigue, je pense. L'illusionniste. Qui n'a aucun rapport avec rien, mais qui fera plaisir à un vieux pêcheur que j'aime. Exit le chambellan, entre d'un côté Violante, de l'autre Auguste. Scène 8. Auguste, Violante. Auguste se dirigeant vers la comtesse. Vous êtes la comtesse Violante? Violante. Oui, brave homme. Elle se penche vers lui, il voit la paillette d'or dans son œil. Que voulez-vous? Auguste. Plus rien. J'avais raison. C'est merveilleux. Merci. Ils disparaissent. Scène 9. Ondine, le chambellan, le poète, les dames, puis l'illusionniste, puis un page. Le chevalier, Bertram. Le chambellan descend l'escalier en donnant la main à Ondine et en lui faisant répéter ses révérences. Le chambellan. Absolument impossible. Ondine. J'en serais si heureuse. Le chambellan. Changer en fait nautique la réception ordinaire de troisième classe est pratiquement impossible. Le secrétaire des finances d'ailleurs l'interdirait. Amener l'eau dans la piscine nous coûte chaque fois une fortune. Ondine. Je vous l'aurais gratis. Le chambellan. N'insistez point. Même si notre roi recevait le prince des poissons, il devrait, pour raison d'économie, le recevoir à l'air. Ondine. Je serais tellement à mon avantage dans l'eau. Le chambellan. Pas nous, pas moi. Ondine. Si, vous spécialement. Vous avez la main humide. Dans l'eau, cela ne se verrait pas. Le chambellan. Ma main n'est pas humide. Ondine. Elle l'est. Touchez-la. Le chambellan. Chevalière, vous sentez-vous la force d'écouter un moment les avis qui vous éviteront dès cet après-midi les impairs et les esclandres? Ondine. Une heure, deux heures, si vous voulez. Le chambellan. De les écouter sans m'interrompre. Ondine. Je vous le jure. Rien de plus facile. Le chambellan. Chevalière, la cour est un lieu sacré. Ondine, pardon, une seconde. Elle va vers le poète qui se tenait à l'écart et qui vient au-devant d'elle. Ondine. Vous êtes le poète, n'est-ce pas? Le poète. On le dit. Ondine. Vous n'êtes pas très beau. Le poète. On le dit aussi. On le dit plus bas. Mais comme les oreilles des poètes ne sont sensibles qu'au chuchotement, je l'entends d'autant mieux. Ondine. Est-ce que cela n'embellit point d'écrire? Le poète. J'étais beaucoup plus laid. Elle rit vers lui. Il se retire. Ondine revenant au chambellan. Excusez-moi. Le chambellan. Chevalière, la cour est un lieu sacré, où l'homme doit tenir sous son contrôle les deux traîtres dont il ne peut se défaire, sa parole et son visage. S'il a peur, ils doivent exprimer le courage. S'il ment, la franchise. Il n'est pas malséant non plus s'il leur arrive de parler vrai, qu'ils aient l'air de parler faux. Cela donne à la vérité cet aspect équivoque qui la désavantage le moins vis-à-vis de l'hypocrisie. Prenons l'exemple que dans votre innocence vous avez choisi vous-même. Je renonce à l'exemple sur l'odeur de brûlé qui était mon exemple ordinaire, oui. Ma main est humide, ma main droite, la gauche est la sécheresse même, elle me brûle l'été. Oui, depuis mon enfance je le sais et j'en souffre. Ma nourrice, quand je touchais son sein, confondait mes lèvres et mes doigts. Et la légende qui veut que je tienne cette particularité de mon ancêtre Onulphe, qui plongea par mégarde son poignet dans l'huile sainte, ne m'est pas une consolation. Mais, tout humide que soit ma main, mon bras est long, il touche au trône, il obtient les récompenses et les disgrâces. Me déplaire et mettre en jeu sa faveur, celle de son mari, surtout si l'on raille mes tares physiques, ma tare physique. Je n'en ai d'ailleurs pas de morale. Et maintenant, belle Ondine, si vous m'avez suivie, dites-moi, en femme de cour, avertie, comment est-elle ma main ? Ondine. Humide, comme vos pieds. Le chambellan. Elle n'a rien compris, chevalière. Ondine. Une seconde, voulez-vous ? Le chambellan. Non point, jamais. Elle va à nouveau vers le poète qui lui aussi va vers elle. Ondine. Quel a été votre premier vers ? Le poète. Le plus magnifique. Ondine. Le plus magnifique de vos vers ? Le poète. De tous les vers. Il est aussi au-dessus d'eux que vous au-dessus des autres femmes. Ondine. Vous êtes bien modeste dans votre vanité. Dites-le vite. Le poète. Je ne le sais plus, je l'ai fait en rêve. Au réveil, j'avais oublié. Ondine. Il fallait vite l'écrire. Le poète. C'est bien ce que je me suis dit. Je l'ai même écrit beaucoup trop vite. Je l'ai écrit en rêve. Elle rit gentiment. Il s'éloigne. Le chambellan. Chevalière, admettons que j'ai la main humide. Quand vous aurez touché toutes les mains de la cour, peut-être serez-vous d'opinion différente. Admettons-le et admettons que je l'admette. Mais iriez-vous dire au roi qu'il a la main humide ? Ondine. Sûrement pas. Le chambellan. Bravo ! Parce qu'il est roi ? Ondine. Non, parce qu'elle est sèche. Le chambellan. Vous êtes impossible. Je vous parle du cas où elle le serait. Ondine. Vous ne pouvez en parler, elle ne l'est pas. Le chambellan. Mais si le roi vous questionne sur la verrue qu'il a sur le nez. Il a une verrue, notre roi, je pense. Ne me faites pas crier si fort, je vous en prie. Et s'il vous demande à quoi elle ressemble? Ondine. Qu'un monarque qui vous voit pour la première fois songe à vous demander à quoi ressemble sa verrue, ce serait bien étrange. Le chambellan. Mais, chevalière, nous parlons théorie. J'essaye seulement de vous faire comprendre, au cas où vous auriez une verrue, ce que l'on devra en dire pour vous plaire. Ondine. Je n'aurai jamais de verrue. Vous pouvez attendre. Le chambellan. Elle est folle. Ondine. Cela vient de toucher les tortues, vous savez? Le chambellan. Peu importe. Ondine. C'est moins grave d'ailleurs que le bouton d'Alep qui vient de se frotter au poisson-chat. Le chambellan. Si vous voulez. Ondine. Ou que l'âme basse qui vient de tuer l'anguille en l'étouffant. L'anguille est noble, il faut que son sang coule. Le chambellan. Elle est insupportable. Le poète. Madame, le chambellan veut seulement vous dire qu'il ne faut point faire de peine à ceux qui sont laids en leur parlant de leur laideur. Ondine. Ils n'ont qu'à ne pas l'être. Est-ce que je le suis, moi ? Le chambellan. Comprenez donc que la politesse est une sorte de placement, et le meilleur. Quand vous vieillirez, on vous dira « grâce à elle, que vous êtes jeune. Quand vous en les direz, que vous êtes belle. Tout cela contre un minime versement. » Ondine. « Je ne vieillirai jamais. » Le chambellan. « Quel enfant !» Ondine. « Voulez-vous parier ?»« Oh, pardon. » Elle court vers le poète. Le chambellan. « Chevalière !» Ondine. « C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, n'est-ce pas ?» Le poète. « Quand elle tombe des rochers, éclaboussant la belladone et l'encolie, sans conteste. Ondine. La cascade, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Je crois que vous devenez fou. Le poète. Je vois. Vous parlez de la mer ? Ondine. De la mer ? Cette saumure, cette danse de Saint-Guy, mais vous m'insultez. Le chambellan. Chevalière ! Ondine. Voilà l'autre qui nous rappelle. Comme c'est dommage, nous nous entendions si bien. Elle revient près du chambellan. Le chambellan. Qu'est-ce qu'il raconte ? Chevalière, nous reprendrons un autre jour cette leçon. j'ai juste le temps de vous apprendre la question que vous posera aujourd'hui le roi, comme à toute débutante, sur le héros dont il porte le nom, sur Hercule. Il lui fut donné parce que, dans son berceau, il écrasa sous son derrière un orvet qui s'y fourvoyait par mégarde. Vous êtes la 6e débutante de l'année, il vous demandera son 6e travail. Écoutez bien, je vous ferai répéter, et par Saint Roch, je vous supplie de ne plus vous absenter de la conversation pour aller bavarder avec le poète. Ondine. Oh, justement, j'oubliais, merci de me le rappeler, c'est très urgent. Le chambellan. Mais je l'interdis. Elle court au devant du poète. Ondine. Vous me plaisez. Le poète. Je suis confus, mais le chambellan attend. Qu'avez-vous à me dire de si urgent? Ondine. Cela? Le chambellan. Je crois qu'ils deviennent fous. Chevalière. Ondine. Je parlais des sources tout à l'heure, des sources sous-marines, quand le printemps fleurit au fond du lac. Le jeu est de les trouver à leur jaillissement. C'est soudain une eau qui se débat au milieu de l'eau. On essaye de la comprimer des deux mains. On est inondé d'une eau qui n'a touché que de l'eau. Il en est une tout près d'ici, dans l'étang. Allez au-dessus d'elle. Regardez-y votre reflet. Vous vous y verrez comme vous êtes, le plus beau des hommes. Le poète. Les leçons du chambellan portent leurs fruits. Le chambellan. Walter, je vous rends responsable. Quand Hercule eut tué le poisson, chevalière. Ondine. Hercule a tué un poisson? Le chambellan. Oui, le plus grand, l'hydre de Lerne. Ondine. Alors je me bouche les oreilles. Je ne veux rien savoir des assassins. Le chambellan. C'est infernal. On entend un grand bruit au dehors. L'illusionniste paraît. Le chambellan. Et quelle est cette scène maintenant? L'illusionniste. Celle qui vient? Je n'en suis pas responsable. Une dame. Le premier baiser de Hans et de Bertha? L'illusionniste. Non, bien pis. La première mésentente du chevalier et d'Ondine. Elle vient à son heure. Hans paraît. Un page. Votre mari, madame. Ondine. Viens vite, Hans chéri. Le grand maître m'apprend à mentir. Le chevalier. Laisse-moi, j'ai à lui parler. Ondine. Touche sa main. Tu verras comme elle est sèche. Je mens bien, n'est-ce pas, chambellan? Le chevalier. Silence, Ondine. Ondine. Toi, tu es très laid et je te hais. Je ne mens pas cette fois. Le chevalier. Vas-tu te taire? Que signifie mon rang à table, excellence? Vous me placez après Salme? Le chambellan. En effet, chevalier. Le chevalier. J'ai droit au 3e rang, après le roi et à la fourchette d'argent. Le chambellan. Vous l'aviez? Et même au 1er, et même à la fourchette d'or, si certains projets avaient pris corps. Mais votre mariage vous assigne le 14e, et la cuillère. Ondine. Qu'est-ce que cela fait, Hans chéri? J'ai vu les plats. Il y a 4 bœufs entiers. Je suis sûre qu'il y en aura pour tout le monde. Rire. Le chevalier. Qu'avez-vous à rire, Bertram? Bertram. Je ris comme mon cœur est gai, chevalier. Ondine. Tu ne vas pas empêcher les gens de rire, Hans. Le chevalier. Il rit de toi. Ondine. Il ne rit pas de moi méchamment. Il rit de moi parce qu'il me trouve amusante. Je le suis sans le vouloir, mais je le suis. Il rit par sympathie pour moi. Bertram. C'est vrai, madame. Le chevalier. Ma femme ne doit provoquer aucun rire, même de sympathie. Ondine. Alors il ne rira plus, car il ne voudra pas me déplaire. N'est-ce pas, chevalier? Bertram. De tout ce qui n'est pas votre désir, je m'écarterai, madame. Ondine. N'en veuillez pas à mon mari. C'est flatteur pour moi qu'il veille ainsi sur ce qui me touche. Ne trouvez-vous pas, chevalier? Bertram. On l'envie d'être seul à pouvoir le faire. Le chevalier. Qui vous demande votre avis, Bertram? Ondine. Mais moi, chérie, moi! Tu aurais besoin des leçons du chambellan, Hans. Ne sois pas nerveux. Imite-moi. Le tonnerre ni le déluge ne chasseront plus ce sourire de mes lèvres. L'illusionniste est venu près d'elle. Elle reconnaît son oncle. Ondine, à voix basse. Te voilà? Pourquoi ce déguisement? Quel méfait prépares-tu? L'illusionniste. Tu le verras. C'est pour ton bien. Pardon si je te parais importun. Ondine. À une condition, je te pardonne. L'illusionniste. Je t'écoute. Ondine. Oh, mon oncle, j'ai besoin de mon calme. Accorde-moi pour cette fête seulement de ne pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours. Illusionniste. Qu'est-ce que je pense? Ondine, qui lit dans sa pensée terrorisée. Va-t'en! L'illusionniste. Tu vas m'appeler dans 1 minute, Ondine. On annonce le roi.